Et vous écoutez France Culture. Et les litanies du Rut s'élevèrent dans le vent salé des abattoirs. Joris Carl Huysmans. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre consacré ce soir à Joris Carl Huysmans, notre maître à tous, dont un volume Pléiade offre désormais la quintessence romanesque d'une œuvre tanguant entre engouement naturaliste et assaise mystique, artifices délicieux et voracités infernales. André Guyot et Pierre Jourde, ces maîtres d'œuvre, sont ce soir nos invités. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre consacré à Huysmans, bien évidemment, puisque cette année 2019, l'automne sera huysmansien ou ne sera pas. Il y a bien sûr d'abord et tout évidemment ce volume roman et nouvelles de Huysmans aux éditions de la Pléiade, avec la parution également chez Gallimard d'une édition collector de Harbourg, richement illustrée, des rééditions et des éditions d'inédits aux éditions de Lerne, la grande exposition Joris Carl Huysmans, critique d'art au musée d'Orsay, et puis tout cela venant après des œuvres complètes qui ont démarré aux éditions Classique Garnier et l'édition critique donc des textes de Maurice Garçon consacrés à Huysmans aux éditions du Léraud. Donc je le répète, l'automne, et c'est tant mieux, sera Huysmans ou ne sera pas. Je salue mes invités. Bonsoir André Guyot.
Bonsoir.
Vous l'attendiez cet automne huysmansien?
Depuis longtemps, oui.
Voilà. Voilà. Qui vous vouez au maître.
Nous l'espérions. L'espérions là, avec année, une telle intensité que nos voeux sont exaucés.
Ah bah écoutez, également, on partage avec vous ce bonheur d'être exaucé. J'ai oublié de mentionner une exposition à Strasbourg également.
Qui prolonge l'exposition du musée d'Orsay, oui, en effet. Au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Mais ce sera un peu différente.
Alors est-ce qu'on a parlé de la sortie, enfin de la réédition de Lerne aussi?
Le cahier de Lerne a été mentionné par vous, Pierre Jourde. Donc notre second invité, bonsoir, romancier, spécialiste de Huysmans, a fait une thèse sur Huysmans. Ses derniers titres parus, fiction, un roman aux éditions Gallimard, Voyage du Canapelli. Canapelli, c'est assez huysmansien comme.
À vous trouvez.
Oui, comme objet d'ameublement, on peut y flâner, on peut y renverser les dames.
On peut y renverser les dames, mais voilà. C'est toujours décevant chez Huysmans. Oui. Ça ne se passe pas bien.
On peut également y laisser errer son chat parmi les livres qu'on aurait abandonnés sur le canapé. En tout cas, soyez les bienvenus tous les deux. Et puis bravo pour cette performance d'avoir fait tenir comme la quintessence d'un parcours romanesque et esthétique dans ce volume Pléiade. Nous serons avec Sixtine Audebert. Bonsoir.
Bonsoir, François.
Sixtine Audebert qui est tout à fait à sa place, à la fois parce qu'elle est agrégée dans cette émission vouée à la désagrégation, c'est notre seule agrégée. Et puis en plus, elle travaille sur un sujet qui est d'une certaine façon huysmansien. Sujet de thèse, on peut le dire.
Oui, tout à fait, qui rejoint donc au moins par le satanisme et par expansion par peut-être une représentation de la création comme un acte finalement transgressif et décadent. Donc effectivement, mon sujet de thèse porte sur les fanzines de métal des années 80 aux années 2000. Et vous avez l'occasion de suivre mon actualité en recherche, donc ces heures à la BNF que je passe afin d'extraire toute la quintessence de ces documents, sur un Instagram que je viens de lancer, j'ai pas encore mis sur les réseaux sociaux, qui s'appelle 3615 Zébut, 3615 pour le Minitel rétro vintage rigolo, et Zébut pour le nom intime de mon copain Belzébut.
Voilà, donc, je ne sais pas si les fanzines de métal auraient pu à Huysmans. Enfin, c'est un peu l'équivalent actuel de certaines publications fin de siècle, non? Parce qu'il y a des fanzines sataniques déjà à l'époque de Huysmans.
Oh, il y avait des choses un peu sulfureuses. Il y avait des revues un peu, notamment la revue Academos qui flirtait un petit peu avec les amours homosexuels. Oui, mais enfin pas de musique métal encore.
Toute la presse satirique est quand même aussi un peu.
Alors satirique, oui, bien sûr. Oui.
Mais un peu osé souvent.
Oui. Voilà, de tout cela, nous allons parler, mais avant cela, on a taxé, gratifié Harbourg du titre de bréviaire de la décadence. Eh bien, nous allons ouvrir ce soir notre bréviaire de la désagrégation avec vous, Céline Duchesnay, donc ouverture hebdomadaire et cérémonieuse, bien sûr, de notre encyclopédie pratique des mauvais gens, avec ce soir le sourire de la mort.
Le sourire de la mort et un squelette dansant, ce qui est finalement, oui, assez raccord avec l'émission. Alors, c'est un livre blanc que je vais vous présenter, où sur la couverture, on voit un squelette gambadant, la gueule grande ouverte, glapissant joyeusement. Et en dessous, écrit en lettres d'or, Posada, Confession d'un squelette. Samuel Desgardins, auteur de ces confessions posthumes, propose ici de faire parler de sa tombe, José Guadalupe Posada, un graveur mexicain qui est né en 1852 et qui est mort en 1913, et dont l'œuvre prolifique, plus de 20 000 images, dont une importante production de Calavera, ses têtes de mort, a connu une postérité que Posada a eu peu de son vivant. Donc cette autobiographie d'outre-tombe raconte ainsi le destin de cet artiste dans un Mexique mouvementé, révolutionnaire, le tout accompagné des 115 plus mortelles gravures de Posada.
Oui, dans les cabochons, on a vraiment, oui, dans des attitudes vraiment... Oui, c'est quand même assez cocasse. On voit notamment ici un petit squelette qui sort d'un verre de bière, un autre qui prend sa douche, voilà, donc, un autre voilà, qui fait une crêpe. En fait, la crêpe est à la forme d'un crâne. Posada représentait les vivants sous forme de squelette. Donc on retrouve la plupart de ces squelettes habillés, chapeautés, avec des postures oui, qui sont celles d'êtres vivants. Et non pas, on n'a pas affaire à des représentations figées, donc il n'y a pas de gisants. Ce sont vraiment des squelettes qui renvoient à notre propre finitude, mais aussi à nos turpitudes. C'est plutôt une ode à la vie qu'à la mort. Et ces squelettes étaient gravés dans un cadre bien particulier, qui était celui de la fête des morts, en fait, hein, qui au Mexique a lieu le 1er et le 2 novembre. Et donc ces calaveras étaient imprimées sur des feuilles volantes, souvent sur un papier de couleur assez vive, avec des textes. Certaines représentations font allusion à une certaine forme d'actualité, mais aussi voilà, aux mœurs des Mexicains, notamment leur propension à apprécier la tequila, par exemple. Ces squelettes sont on ne peut plus vivants, ce qui est peut-être un paradoxe, mais c'est vrai, quand on regarde les gravures, c'est quelque chose d'assez évident. Il n'y a absolument rien de morbide. Au Mexique, de toute façon, la mort fait partie de la vie. Elle n'est pas dissociée. Et je pense qu'on voilà, on retrouve oui, cette façon de voir dans les gravures de Posada.
Posada, Confession d'un squelette, un livre de Samuel Desgardins racontant la vie du graveur José Posada et illustré de ses gravures de calaveras, est sorti dans la très belle maison d'édition Martin de Halleux, une maison d'édition qui fait redécouvrir l'œuvre du graveur belge Frans Masserel aux côtés de Samuel Desgardins, qui lui a consacré une thèse en histoire de l'art. Et comme Samuel Desgardins ne peut décidément pas être enfermé dans une seule case, vous pouvez aussi retrouver son travail d'artiste plasticien sous le nom de Nidra Jed sur le site internet galeriedepoche.com et lors d'une exposition qui se tiendra à Galerie Bortier à Bruxelles du 14 au 28 décembre. Plus d'informations sur la page de Mauvais Genre.
Merci Céline pour cet André Posada de notre encyclopédie pratique. Je pense que les têtes de mort et les squelettes huismanciens étaient plus la danse macabre médiévale que les squelettes mexicains de la fête oui. Des morts. André Guyot.
J'allais dire, le Mexique n'a pas l'exclusivité des têtes de mort et des squelettes. Il y en a pas mal dans la religion catholique.
Oui, c'est du syncrétisme, oui. Du côté du Mexique. Voilà, ça vient bien sûr de la danse macabre, oui, aussi, oui, et puis de, oui, l'art, oui,
très... Aztèque, oui, oui. De Pierre Jourde, oui. Vous êtes aussi...
squelettique.
Sensible au macabre.
Squelettique, hélas, non. Non. Oui, mais le macabre, oui... Fasciné huissement. En tout cas, le corps souffrant, oui.
Ah oui, ça, le dolorisme et le corps souffrant, ouais. Et ça n'a été, entre guillemets, qu'en empirant, puisque déjà, le corps des ouvrières, dans les romans naturalistes, est en proie à la souffrance. Et alors, quand on arrive à la fin, à Sainte-Lidvine de Schiedam, alors là, c'est véritablement une souffrance athlétique, presque pyrotechnique.
Et avant sa souffrance à lui.
Et oui, parce qu'il a, et voilà, lui-même...
Il y est passé, en fait, en quelque sorte.
Eh bien, justement, nous allons en parler de ce que furent ces dernières années de souffrance dues à un cancer de la femme. Passe. Joris Carl-Huysmans, c'est l'honneur ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture à l'occasion de la sortie, bien sûr, de cette pléiade qui lui est consacrée, romans et nouvelles, un travail mené à bien par André Guyot et Pierre Jour, de nos invités. Alors, dedans, il y a 10 textes, 7 romans, 2 nouvelles, et ce qu'on pourrait appeler une novella, c'est-à-dire une longue nouvelle qui représente à peu près la courbe esthétique, philosophique, littéraire en tout cas, de son inspiration depuis Marthe, Histoire d'une fille, jusqu'à En route. Comment avez-vous pratiqué le choix d'un texte par rapport à l'autre? Vous avez été guidé plus par l'esthétique, la lisibilité actuelle de certains textes, plus que par, je dirais, leur signification par ailleurs? Pierre Jourde.
C'est d'abord un choix chronologique.
Oui.
C'est la première partie de son œuvre. On s'arrête à la conversion, au premier roman de la conversion, ce qui donne en effet l'arc un petit peu de toutes ces périodes, de tous ces moments. Il y a une unité chronologique, il y a une relative unité de genre, puisqu'on a pris le genre narratif, et pas par exemple la critique d'art ou la poésie en prose, ce qui explique l'absence de
Une rageoire aux épices, qui est réédité en poésie Gallimard, voilà. Qui est édité en poésie Gallimard,
qui complète un petit peu ce
par
ce
un
volume.
Collaborateur de ce volume.
André Guyot. Ce qu'il n'y a pas non plus dans ce volume, mais ça pourrait faire le contenu d'un nouveau volume, pourquoi pas. C'est aussi toutes ses chroniques. C'était un grand journaliste, il a écrit tout le temps, beaucoup publié dans la presse. Et dans ce genre intermédiaire, poème en prose, chronique, petite nouvelle, très courte nouvelle. Il y a une nouvelle qui s'appelle Claudine, je crois, dans Le droit aux épices, qui n'est pas un poème en prose, qui est plutôt une nouvelle, qui est narrative aussi. Ce qui est problématique, c'est qu'on s'arrête à En route.
Effectivement, voilà. Il y a l'aventure continue. Avec En route, la cathédrale, l'Oblat, les foules de Lourdes, Sainte-Hildegarde de Schiedam, qui sont véritablement la partie du Huysmans catholique, qui va peut-être un second volume.
C'est un aboutissement. Et puis on peut dire aussi que c'est peut-être moins bon du point de vue romanesque. Hein. Ce n'est pas.
La lecture de la cathédrale, qui est un monument, n'est pas évidente. Mais il y a quand même quelques grandes œuvres. Pour moi, Sainte-Lydvine, c'est du meilleur Huysmans. Oui. Dans cette espèce d'explosion sadique qui se produit sur le corps de la sainte, c'est un texte extraordinaire. Il a fasciné notamment Claude-Louis Combet, qui a préfacé une des rééditions.
Oui, c'est vrai que c'est un des textes les plus spectaculaires de Huysmans. Alors, si vous voulez, présentons d'abord la vie d'Huysmans. Il naît en 1848, il meurt en 1907 dans des conditions terribles, puisqu'il était atteint d'un cancer de la mâchoire qui a complètement démantelé le visage, et les témoins sont là pour évoquer ses souffrances.
Il faut préciser à ce propos qu'il refusait la morphine.
Voilà, donc il a...
Pour acheter son paradis.
Oui, Louis Massignon, qui tout jeune l'a vu avec son père, disait que c'était une statue vivante de la douleur. Oui. Donc effectivement, cette absence de toute thérapie faisait qu'il était l'incarnation de la souffrance qu'il avait auparavant dépeinte tant chez les victimes de Gilles de Rais que chez les mystiques.
Il était persuadé du sens théologique de la souffrance. Oui.
Et dans toute son œuvre, il y a une espèce de fantasme de l'arrachage des dents qui est déjà présent dans À rebours, comme si c'était presque... une anticipation de cette fin terrible. Oui. Il faut dire aussi que c'est une fin d'autant plus extraordinaire que c'est un personnage qui toute sa vie on a pu considérer comme quelqu'un de douillet, de frileux, cherchant son confort, etc. et qui tout à coup change complètement.
Oui.
Sous l'effet d'une foi qu'on lui a contestée, mais qui est apparue. Alors,
oui, c'est vrai que la foi de Huysmans, disons qu'il se convertit en 1891 sous l'influence de l'abbé Boulan à Notre-Dame de la Salette, au sanctuaire, et puis qu'à partir de 1891, un parcours spirituel catholique est amorcé, et qu'on a souvent
C'est l'abbé Munier qui l'a aussi dirigé vers la trappe divine.
Exactement, il y a une querelle sur l'abbé Boulan est un prêtre luciférien.
Sent le fagot.
D'un genre un peu particulier. Huysmans
était persuadé qu'il fallait passer par le diable pour aller vers Dieu.
Mais la preuve en est. En tout cas, oui, c'est vrai que cette foi, la foi de Huysmans, ça a été critiquée. Je pense que c'est Julien Green qui disait qu'il avait une foi d'antiquaire.
Dès le vivant d'Huysmans, elle a été contestée.
Blois disait qu'il prétendait étayer la Sainte Église sur des dictionnaires. C'était pas beaucoup mieux.
Mais les vrais témoins, l'abbé Munier, il a même fait des conférences pour défendre Huysmans, accusé de manque de sincérité en tant que converti.
Vous avez entendu parler de conversion esthétique.
Mais oui, on peut dire tout ça si vous voulez, c'est-à-dire qu'il a abordé l'art religieux avant d'aborder la religion. Enfin, c'est arrivé à d'autres.
Mais hein, c'est quand même un moment en même temps,
où il est passé. C'était des écrivains de cette époque qui sont passés par ce stade esthétique pour se convertir.
Oui. Alors, sur ces 59 années de vie, ce qu'il faut signaler, et vous résumez bien la question par la formule « le bureaucrate de l'Apocalypse », qui est donc présente dans l'introduction que vous signez, messieurs, il y a 32 années au ministère de l'Intérieur. Parce que Huysmans rentre en 1966 comme employé aux écritures de 6e catégorie, et il en sortira en 1898 comme sous-chef de bureau de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, ce qui est un poste qu'il rapprocherait des renseignements généraux de la DGSE, spécialisée dans l'expulsion des étrangers et des indésirables. Et entre les deux, il y a 32 années. Alors quand on compare cette vie, évidemment, il voulait s'assurer un fixe, puisqu'il était originaire d'une famille qui n'avait guère d'argent, il voulait s'assurer un fixe, mais là c'est quand même étonnant qu'il est arrivé à unir son inspiration, dont on va voir qu'elle est quand même redoutable, de romancier, d'esthète, de critique d'art, avec la régularité fonctionnariale. André Guyot ou Pierre Jourde?
Oui, je pense qu'il faut dire quelque chose qui est peut-être un petit peu mystérieux. Qu'est-ce qu'il faisait au ministère?
Ah, voilà, ça c'est...
Matériellement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de lettres où il se plaint de la discipline, de la nécessité de la ponctualité, du caractère de ses chefs, de la vie de bureau très ingrate. Mais il y a quand même un signe troublant, c'est que ses manuscrits, jusqu'à sa retraite, c'est sur le papier officiel du ministère de l'Intérieur. On peut imaginer, et ça, il a dû le faire, qu'il prenait du papier et qu'il écrivait chez lui ou dans des cafés. Ouais. Il a probablement aussi écrit une partie de son œuvre dans son bureau du ministère.
Mais c'est ce que vous dites dans le dossier analytique qui est évidemment fourni, nous sommes en pléiade au roman, c'est que les chapitres les plus déliquescents de Harbour et peut-être aussi les chapitres les plus effrayants de là-bas ont été écrits sur un papier en tête du ministère de l'Intérieur.
C'est ce qui est fascinant.
Donc, faisons aussi un peu l'éloge des bureaucrates qui pouvaient faire ça à l'époque. Je crains que ce ne soit plus possible aujourd'hui.
Parce que la vie de fonctionnaire à l'époque n'a plus rien à voir avec celle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, il suffit de lire Courteline pour s'en rendre compte. On n'arrivait pas à 9h au ministère, on arrivait beaucoup plus tard. Enfin, il y a une espèce de liberté un peu dans son temps qui a complètement disparu aujourd'hui. Il ne faut pas s'imaginer non plus le fonctionnaire d'aujourd'hui.
Alors, ce qui crée quand même un rapport particulier à l'acte d'écrire, puisqu'il n'écrivait pas pour subvenir, comme plus tard un Bernanos, par exemple, qui était payé à la page. Et puis, il connaissait, je dirais, un certain... tranquillité matérielle, même si c'était loin d'être l'opulence, voire l'aisance, à la différence de ses amis les gueux, Léon Blois et Villiers-l'Isle-Adam. Il y avait quand même un rapport au quotidien chez Huysmans qui était quand même, dont les horreurs c'était de trouver une bonne table pour manger le midi. C'était quand même pas véritablement une angoisse matérielle.
Non, surtout qu'il avait une autre source de revenus. Il avait hérité du petit atelier de brochage qui marchait pas très bien. Enfin, c'était quand même un petit revenu qui avait été fondé par sa mère, son oncle. Et donc, il le gérait. Et puis, je pense qu'il faut le dire aussi, un certain nombre de ses livres se sont vendus.
Voilà, il y avait aussi même les...
Surtout les livres après la conversion.
Les revenus que lui apportait sa littérature à partir d'un certain moment.
Pas négligeable.
Et quand on lit les documents qui sont fournis dans cette édition Pléiade, il apparaît qu'effectivement, d'une part, la hiérarchie bureaucratique du ministère ne le taquinait pas trop. Les choses sont devenues problématiques à partir du moment où il s'est converti, il a publié la cathédrale, puisque la Troisième République anticlérical et athée n'était pas forcément en phase avec la vision mystique de Huysmans. Mais avant, c'était quand même reçu.
Oui. Dans À rebours, il y a déjà quelques lignes d'éloge des congrégations enseignantes à un moment qui est déjà problématique, en fait. En 1884, on lui a rien dit là-dessus. En effet.
Mais donc il y a une tolérance pour le romancier, d'autant plus que le fonctionnaire était impeccable. Il était à l'heure, il était ponctuel, peut-être un peu lent, mais en tout cas il ne posait pas problème.
Oui, il faisait rien, vous voulez
dire. Non, il était bien noté.
Il était bien noté.
Sinon, alors autre aspect qui est mis en évidence dans une abondante chronologie, c'est que Huysmans est parisien. Quelques voyages en Belgique, quelques voyages en Hollande, en Allemagne, mais un peu la province française, mais c'est Paris, Paris, Paris. Donc il a laissé des visions extraordinaires.
Oui. Le paradoxe de Huysmans, c'est que c'est un...
Oui, mais on va. Oui.
Le paradoxe de Huysmans, c'est que c'est un homme sédentaire, un homme d'habitude, qui ne déroge pas facilement à ses habitudes et à son train-train, mais qui, par une espèce de force des choses intérieures, si je puis dire, n'a jamais tenu en place. Il a passé sa vie à aller d'un endroit à un autre, déménager, il n'est jamais bien là où il est.
Et à Paris, il marchait.
Voilà, il marchait.
Il marchait, marchait beaucoup. Oui.
Alors, Christine, vous citiez effectivement des voyages, disons, dont on a évidemment la trace et le fruit dans les œuvres romanesques. Le premier, c'est avec là-bas Gilles de Rais, le voyage au château de Gilles de Rais.
Oui, le château de Tiffauges, donc il me semble que c'est en Bretagne, c'est oui. ça ? Tout à fait.
En Vendée.
Et d'autres voyages, je ne sais.
Le château de l'Ourps aussi, qui est que l'on voit dans Rade. Mais oui. C'est toujours des voyages, je dirais, qui sont là pour relancer l'inspiration littéraire. C'est pas du tout un.
Et aussi pour aller voir de l'art, pour aller voir des églises, des cathédrales. Aussi. Il voulait avoir une idée de toutes les cathédrales françaises gothiques. Hein, il a une idée générale de l'art gothique. Hein, grâce
et après sa conversion, pour trouver le bon monastère.
Voilà. Et puis il y a quand même à la fin la tentative de la création d'une thébaïde, oui. une sorte de phalanstère. Catholique à Ligugey, qui fait construire une maison. Il tente là, c'est une sorte de bunker pieux où se réfugient le dernier carré des vrais croyants catholiques. André Guyot, là,
il a aussi rêvé d'une communauté d'artistes qui partagerait la vie des moines. Et il avait recruté. Hein, il y avait quelques personnalités remarquables d'ailleurs à l'Expo d'Orsay. On montre du Dulac. Qui reste un artiste un peu méconnu.
Franciscain, grand franciscain.
Voilà, c'est ça, voilà. Qui est mort prématurément. C'était un grand drame dans la vie de Huysmans, d'ailleurs. Mais il comptait sur lui et sur quelques autres. Georges Rouault, Roche et quelques autres, Rivière, pour faire cette communauté d'artistes qui partagerait qui serait au blanc, en quelque sorte aussi, qui partagerait la vie des moines.
Pierre Jourde.
Oui, la maison Notre-Dame, mais là encore, ça n'a pas tenu, ça n'a pas débouché. Il a dû la quitter.
Alors, peu de gens ont été là pour témoigner de ce que fut Huysmans, sauf encore dans les années 50, et Claire Poinsignon a eu la bonne chance et l'heureuse idée de découvrir deux témoignages sur Huysmans dans le fond de l'INA. Le premier, c'est celui de Pierre Descaves. Pierre Descaves, fils de l'ami exécuteur testamentaire de Huysmans, Lucien Descaves, et qui se souvient de ce monsieur qui venait les voir et qu'on allait voir quand il était enfant.
Je ne dirais pas que c'était un personnage atrabilaire, mais c'était un personnage très entier et qui, de sa voix sourde et quelquefois perçante, et une façon de distiller, de couper les mots, comme au massicot, donnait à son auditeur une impression de force et, comme on dirait maintenant plus vulgairement, de rogne rentrée. Oui, l'homme était oui, fluet, oui. il... autour de la cinquantaine, il avait conservé, l'aspect un peu du vieux chef de bureau qu'il avait été, le vieux fonctionnaire, zélé, toujours très correctement mis, mais sans recherche. Et il avait une chose assez remarquable, vraiment, les épaules tombantes, comme voûtées. Et il ne travaillait qu'avec une couverture sur les épaules, et avec, le secours, quelquefois, d'un de ses chats, qui venait se plotonner contre les épaules de manière à lui tenir encore plus chaud.
Barre de rouille.
Oui. Le visage était ascétique. Ce qui était singulier, c'était évidemment sous la moustache rare également, une bouche un peu amère, comme on dirait, le nez pincé, mais les yeux plus particulièrement, qui volontiers cherchaient à taire une sorte d'inspiration, lorsqu'il se levait sur vous, avait une sorte d'éclat d'une dureté vraiment saisissante. C'est lorsque Huysmans se passionnait pour un débat ou lorsqu'il voulait vraiment interpeller une personne, alors il semblait que son regard se réfugiât, cette rogne d'ailleurs qu'il avait, car il considérait la vie comme une lâcheté et toutes les iniquités avaient le don de le mettre dans une sorte de fureur indicible. Et comme je le rappellerai, je pense que sa mémoire ne souffrira pas, quand il évoquait devant lui une personne qui, pour des raisons mais absolument farfelues, mais minimes, lui avait manqué, il disait le salaud et de salaud ça devenait toute l'humanité, les salauds, oh, les salauds, et il en avait une kyrielle, je vous dis, c'était comme un chapelet de salauds qui avait l'air de se dérouler sous ses doigts agiles, des doigts d'une agilité surprenante car il roulait des cigarettes, il en tirait quelques bouffées et là il s'arrêtait, quelle que fût la conversation, l'intensité du débat, il s'arrêtait, roulait les cigarettes, l'allumait, tirait quelques bouffées, s'entourait d'une sorte de fumée et puis une fois que c'était fait, il reprenait la conversation au même diapason de l'orage.
Voilà le témoignage de Pierre Descaves, qui enfant connu Huysmans. André Guyot.
C'est extraordinaire.
On y est, on le voit.
Ça peut être complété un petit détail qui apparaît dans le portrait que Valérie fait de Huysmans. Il paraît que quand il disait du mal, ce qu'il faisait tout le temps pratiquement, de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'un événement, ou d'une circonstance, il croisait les jambes et laissait balancer.
Alors là, je vous demande de patienter un peu, puisque c'est le deuxième témoignage que nous avons, où ça, cet aspect sera évoqué.
Oui, tant mieux.
J'aimerais qu'on évoque Sixtine Audebert, cette habitude que l'on a de classer Huysmans en trois temps, le naturalisme, l'esthétique luciférien, enfin l'esthétisme et puis le luciférisme mystique. On a plutôt le sentiment que, en définitive, tout se mélange un peu et qu'il y a de l'un dans l'autre et que les choses sont beaucoup moins tranchées, beaucoup plus complexes.
Est-ce qu'on pourrait dire peut-être qu'il y a une forme de continuité justement entre ce regard, disons, heuristique, en surplomb, qui serait celui du naturaliste, et finalement l'enquête luciférienne dans là-bas, où on retrouve finalement des procédés assez proches du procédé d'enquête du naturalisme, même si cette fois c'est une érudition livresque. C'est vrai qu'il y a un changement aussi au gré de l'écriture, puisqu'on en avait déjà parlé. On s'est demandé s'il y avait un changement dans l'écriture de Huysmans selon les trois périodes.
Pas tellement.
Non, dans l'écriture.
C'est vrai. Et peut-être la place de l'érudition, en fait. Dans les premiers romans, plus une espèce de collection merveilleuse, et dans les romans qui suivent, une tendance à presque, j'avais qualifié ça d'incontinente érudition. À la Balzac presque, alors pas le même narrateur, mais avec ses interventions qui prennent une masse de textes et ses stases contemplatives pendant des heures de mémoire, de noms de savants, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait voir, puisque je reprends le début, on pourrait voir un fil entre cette position du naturaliste et finalement cette position, disons, du moraliste mystique de la fin.
Oui. André Guyot, Pierre Journe.
Il y a des éléments de continuité, incontestablement. D'abord, le refus de la narration classique, de la narration romanesque, avec ses événements, ses chutes, etc. Dès le début, Huysmans, contrairement à d'autres naturalistes, ne donne pas là-dedans. C'est-à-dire que ses romans ne sont pas des histoires d'événements, sont des histoires de lente dégradation, le plus souvent. Considère que, comme dans la réalité il ne se passe rien, c'est pas la peine qu'il se passe quelque chose dans les romans, puisqu'ils sont censés, au début, rendre compte de la réalité. Mais ça ne change pas beaucoup par la suite. L'écriture ne change pas non plus. Elle a la même violence du début à la fin, si même elle ne s'accroît pas encore plus. C'est certainement la documentation, l'érudition qui prend effectivement de plus en plus de place. Mais on pourrait tenir que, d'une certaine manière, il reste un petit peu naturaliste jusqu'au bout, dans son souci du détail, dans sa manière d'aller au corps, d'aller à la chair tout de suite, avec ce refus d'idéalisation qui est naturaliste.
André Guyot.
Oui, il ne faut pas non plus systématiser cette position qui est la meilleure, c'est-à-dire il y a une grande continuité, personnalité qui s'affirme, un style qui est là depuis le début et auquel il reste fidèle, la même phrase, je dirais, le même goût des mots. Mais il y a quand même aussi des phases, des évolutions, on ne peut pas le nier. Tout à l'heure, on entendait ce portrait merveilleux du fils de Lucien Descaves, de Huysmans vivant. Mais ce sont les dernières années de la vie de Huysmans, probablement au moment où il avait ses copains naturalistes aux soirées de Médan, était-il moins pessimiste, moins acariâtre, moins aigri, moins méchant. Il a eu dans sa jeunesse une période de fécondité. D'ailleurs, il se marque, il se situe à ce moment-là, il s'engage pour un certain type de roman et aussi pour l'art moderne, pas l'oublier. Et là, il y a un peu quand même le contraire du pessimiste qu'il devient et dont le caractère s'aigrit. Et il y a quelqu'un qui se met à croire à l'art moderne, à un renouveau du roman, etc., avec une certaine fébrilité, une vue juste des choses, je crois. Donc, il ne faut pas non plus baliser tout, comme si c'était une continuité sans vague, sans méandre, sans aspérité. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution. On ne peut pas le nier non plus, je crois. Il y a les deux.
L'argot succédant, enfin l'érudition succédant à l'argot,
oui.
Et la géographie prenant sa place dans les dernières périodes. Autre élément important, l'élément autobiographique que vous marquez bien, c'est une œuvre autobiographique, auto-fictionnelle, qui met en scène des personnages solitaires. D'ailleurs, quand il tente de mettre en scène des communautés, c'est quand même beaucoup moins bon. Enfin, on a le sentiment qu'il est un peu à la peine. Mais par contre, quand c'est la solitude déambulante ou contemplative d'un personnage ou l'expérience existentielle d'une femme ou d'un homme, là, Huysmans est à son plein.
Oui. Autobiographique, là, clairement, il l'est de plus en plus. Il ne l'est guère au début, il est de plus en plus. Et ça fait partie aussi, je crois, de son refus du romanesque.
Oui, c'est ça. Il faut dire que c'est du roman sans romanesque. C'est-à-dire qu'en définitive, que vous dites, il ne se passe rien, la réalité est décevante, le monde est foutu, enfin, il n'y a pas d'horizon véritable de sortie possible. On attend évidemment la rédemption, mais ça, ce sera pour un autre jour, et il n'y a plus que ça, quoi.
Oui, je crois qu'il y a eu une prise de conscience à un certain moment. Il y a un texte autobiographique de 85 où il parle de lui sous un faux nom, un pseudonyme, il prend le nom de l'ami avec qui il vit. Et puis, là, il dit, les personnages de Monsieur Huysmans, qui parle à la troisième personne, c'est lui. Bon. Et finalement, il l'assume. À un certain moment, il se dit, ce n'est pas la peine de passer par la fiction, autant passer par cette fausse autobiographie à peine déguisée, avec des noms qui changent, Durtal, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même aussi là deux périodes, me semble-t-il. Il est passé d'une autobiographie mal assumée à une autobiographie pleinement assumée.
The Stranger, une trouvaille de Laurent Polleret pour cette playlist Huysmansienne ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors, Huysmans, 32 ans au ministère de l'Intérieur, mais néanmoins en guerre avec la modernité, que ce soit la modernité du quotidien, la technologie, l'industrie, le nouveau mode de vie quand même, et puis la mentalité démocratique, un personnage en guerre avec son siècle.
Au début, c'est l'inverse. Au début, c'est l'inverse. Il recommande au contraire un art de la modernité. C'est pour ça qu'il défend les impressionnistes. Il faut descendre dans la rue et peindre ce qu'on voit. Il défend l'architecture du fer, les locomotives, les gares. Il reproche même à Monet de ne pas assez bien savoir peindre les gares. Donc
il y a beaucoup de gares au début, notamment dans les Sœurs Vatard. Alors il regarde les locomotives. C'est dans Marthe ou les Sœurs Vatard que je crois que l'héroïne est une extrêmement pointue sur la vision et la connaissance des modèles ferroviaires.
Oui, et on retrouve les locomotives dans Arbour. Les fameuses locomotives qui sont finalement plus belles, plus intéressantes que des femmes qui peuvent en tenir lieu d'une certaine manière.
Donc il y a quand même un refus, je veux dire, du Paris qui est celui qu'il a sous les yeux, à la fois du Paris huysmansien mais haussmannien, de la civilisation démocratique, celle des expositions universelles, de la diffusion maximum des connaissances et tout ça. Lui, c'est plus une solitude, un célibat, c'est la culture gagnée par l'érudition et non pas diffusée par la publicité.
Oui, mais pour revenir sur son rapport à Paris, oui, il prend la suite de quelques autres qui ont assisté au changement de Paris, qui n'est plus le vieux Paris, mais le Paris haussmannien. Et donc il vit le prolongement des grandes destructions que Baudelaire avait commentées, et quelques autres, Gautier aussi. Et donc il vit ça assez mal d'ailleurs. Il vit mal le recouvrement
de la Bièvre,
en particulier cette petite rivière qui existait encore, au bord de laquelle il y avait des tanneurs, des petits artisans, et toute une vie, une végétation qui est nivelée, on écarte tout ça. Et il a dit à l'un de ses amis, je crois Prince, Harry Prince, c'est le texte auquel je tiens le plus, mon texte sur la Bièvre. J'y tiens, dit-il, comme à la prunelle de mes yeux. Et il l'a écrit, réécrit, publié à gauche et à droite pour en faire une petite plaquette, un article, etc. Parce que ça l'obsédait. C'était emblématique de tout ce qui se passait, de changement du monde et de la ville de Paris.
Mais alors c'est une critique de son siècle, une critique qui est moins idéologique que ontologique. On a un sentiment que dessous, c'est plus un rapport nécrosé, un réalisme métastasé, je vous cite messieurs, qui est à l'œuvre plutôt qu'une sorte de critique idéologique du monde qu'il vit. Pierre Jourde.
Je pense qu'il supporte pas. On est en plein début de l'ère industrielle en France. On a parlé des grands travaux haussmanniens. Je pense qu'il ressent cette époque comme une coupure radicale dans une continuité avec le passé. Je crois que c'est ça pour lui. Tout à coup, c'est comme si le passé devait en faire table rase.
Il ne supporte pas l'idée de la table rase, il est pour l'accumulation. Et on sent que c'est les strates, c'est les dépôts, c'est les alluvions de l'histoire qui l'intéressent plus que la benne des démolisseurs, la pique des démolisseurs et la benne des déménageurs.
Je crois, mais il y a aussi le frileux dans son rapport avec l'architecture haussmannienne. Il écrit plusieurs textes où il répète la même chose, où il dit dans ces grandes avenues, le vent souffle, on a froid l'hiver. Et le soleil brille l'été, on a trop chaud. Donc il fait l'éloge du vieux Paris avec les toutes petites ruelles, les maisons collées les unes contre les autres, et évidemment de cette population pittoresque qui y vivait.
Mais il me semble que par rapport à ce retrait du monde et à cette solitude affectée qui correspondent de fait à une ligne de basse un peu autobiographique, on a évoqué, je crois, Jean-Pierre Bertrand et d'autres dont je ne connais plus les noms, qui ont parlé de romans célibataires pour justement parler de ces romans où il y a une reconfiguration finalement du statut de l'écrivain dans une forme de marginalité un peu distante qui serait celle de l'esthète cloîtré dans son reclus finalement et entretenant un rapport au monde qui serait une manière de dire eh bien si le monde ne veut plus de moi puisque la police a changé et que l'écrivain n'a plus la place qu'il a occupée jadis dans la cité eh bien je ne veux plus non plus du monde et je vivrai par qu'est-ce que vous pensez de ces thèses et de ce
oui mais c'est très juste en effet. Il y a d'abord, le phénomène endémique. Tout à coup, il devient nécessaire d'être célibataire pour être écrivain.
Oui, et anti-bourgeois, de toute façon.
Oui, bien sûr. Mais ça va de soi, je dirais.
Oui, la
mais être célibataire, d'où vient cette obligation d'être célibataire?
Il y a
énormément de célibataires dans cette génération, celle qui précède. Flaubert, Baudelaire, Goncourt, on peut en énumérer à l'infini. Avant, les romantiques se mariaient quand même, exemple. Et avant, n'en parlons pas. Mais il faut ajouter une chose, s'agissant de Huysmans. Il est aussi en partie un faux célibataire, c'est-à-dire il s'est pas marié, avec la femme avec qui il a vécu. Alors il y a les vrais célibataires, ceux qui ne vivent avec personne, Flaubert, Baudelaire, etc. Lui, bon, c'est un peu ambigu, n'est-ce pas? Il ne voulait pas épouser Anna Meunier avec laquelle il a quand même passé plus de 20 ans. Donc il voulait les deux, c'est-à-dire il voulait... Le ménage bien tenu, la vie bourgeoise, et en même temps, les dîners avec les amis, les sorties, la grande liberté.
Les bordels.
Bon, les bordels, c'est un peu un faux célibataire, Huysmans.
Cette figure ambiguë, sans sexe, était verte, et elle ouvrait, dans des paupières violettes, des yeux d'un bleu clair et froid, terrible. Des boutons entouraient sa bouche. Des bras extraordinairement maigres, des bras de squelette, nus jusqu'aux coudes, sortaient de manches en haillons, tremblaient de fièvre, et les cuisses décharnées grelottaient dans des bottes à chaudron, trop larges. L'affreux regard s'attachait à des esseintes, le pénétrait, le glaçait jusqu'au moelle. Plus affolé encore, la femme bulldog se serra contre lui et hurla à la mort, la tête renversée sur son cou roide. Et aussitôt il comprit le sens de l'épouvantable vision. Il avait devant les yeux l'image de la grande vérole. L'extrait de l'arbour de Huysmans, c'est effectivement...
Alors, c'est la maladie de la fin de siècle.
Voilà.
Tout le monde l'avait.
Voilà.
Maupassant s'est même vanté de l'avoir.
Oui, celle dont est mort François Ier, disait Maupassant.
Oui. Oui. Alors, c'est très curieux ce qui se passe dans un rebours, parce que, effectivement, c'est le rêve de la syphilis, le rêve terrifiant de cette maladie. Mais à part ce rêve, la syphilis n'apparaît pas dans les multiples symptômes dont est affectée Des Esseintes. Or, si on regarde le texte de très près, il y a un moment à la fin du roman où il dit que certains symptômes lui ont donné une idée sur la cause déterminante de sa maladie. La cause déterminante. Huysmans dit s'être basé sur un livre d'Axenfeld, sur les névroses, où Axenfeld dit, emploie la même formule, mais en disant la syphilis peut être la cause déterminante de ces symptômes. Autrement dit, je pense qu'il y a un sous-texte médical dans un rebours qui nous dit que Des Esseintes a la syphilis, mais qui n'apparaît que dans le rêve. C'est assez curieux.
André Guyot ?
Oui, mais il y a l'autre maladie de Des Esseintes, qui est aussi la maladie de Huysmans et de tous les personnages de Huysmans, je dirais presque depuis le début. Là aussi, il y a continuité, je crois. Ils sont tous névrosés. Ils ont tous cette maladie, le spleen, la mélancolie somatisée, avec tous ces symptômes. Et longtemps, je pense que d'ailleurs, Huysmans s'est trompé sur lui-même. Il a cru qu'il n'avait qu'une névrose, alors qu'il y avait d'autres pathologies qui s'installaient en lui.
Alors, c'est la maladie naturaliste. Oui. C'est la maladie des Rougon-Macquart.
Qui succède à la tuberculose. Oui. Voilà. Donc, on avait le siècle de la... Enfin, disons, les années tuberculose, et là, on est dans les années syphilis. Oui.
Mais la névrose, c'est la maladie attrape-tout. Elle est à la fois extrêmement physiologique et puis beaucoup plus vague, beaucoup plus psychologique. On en fait un petit peu ce qu'on veut de la névrose, en réalité.
La névrose, c'est une sorte d'ambiance, comme on dit. C'est une sorte de chose qu'on la respire beaucoup plus qu'on ne l'attrape. Ça me fait penser à l'illustration que Bernanos donnait du mal. Le mal, c'est comme une sorte de bruine qui rentre dans les poumons. C'est pareil, la névrose, c'est le monde qui vous la lègue. On l'inhale, on la hume, et après, elle est distillée par les poumons et par le malheureux cerveau. Sixtine Audebert.
Oui, on peut noter quand même que ce chapitre, le chapitre qui contient ce texte, est un chapitre qui est un chapitre sur les fleurs, la serre de fleurs qu'a composée Des Esseintes. Et comme, évidemment, la fleur est une comparaison topique pour la femme, c'est un chapitre qui tourne évidemment autour des relations sexuelles, disons plus ou moins sublimées, représentées dans ces condensés de noms merveilleux des fleurs et toute cette collection que Des Esseintes en fait. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement un sous-texte sexuel très fort, et on retrouve, je trouve, dans l'écriture cette dilatation, cette attention au corps souffrant. Et au corps finalement un peu défiguré, qui sera celle de la description du Christ de Grunewald au début de là-bas, et qui remplace presque dans son abondance et se substitue à l'acte sexuel. Il y a une qualité masturbatoire de cette écriture très très abondante et très... Oui.
Coït visuel, André Guyot.
Oui, non mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Oui. Moi je me suis toujours demandé ce qu'il y avait de... Enfin c'est un peu... simplifier les choses, de vrai ou de faux dans tout ça. C'est-à-dire, il y a une accumulation d'aventures de type sexuel dans le roman. Est-ce que la libido de Des Esseintes correspond vraiment à tout ça? Vous voyez la question que je pose, quelle est la vraisemblance, le degré de vérité, le vrai investissement de l'auteur dans toute cette... dans tout cet aspect du roman, c'est-à-dire il va vers des fantasmes extraordinaires. Est-ce que vraiment il a le désir de cette femme saltimbanque, etc., ou de l'inversion des sexes?
La femme saltimbanque, il s'était offert les services d'une saltimbanque qu'il faisait évoluer nue devant lui ami Harry Sprince.
Oui, c'est ça.
Donc il y avait
C'est après. Après à rebours, comme s'il voulait réaliser les fantasmes de la fiction.
Oui.
Hey. Maître des esclandres, dispensateur des bienfaits du crime, intendant des somptueux péchés et des grands vices, Satan, c'est toi que nous adorons. Dieu logique, Dieu juste, légat suradmirable des fausses trans, tu accueilles la mendicité de nos larmes, tu sauves l'honneur des familles par l'avortement des ventres fécondés dans des oublis de bonne crise, tu insinues la hâte des fausses couches aux mères et ton obstétrique épargne les angoisses de la maturité, la douleur des chutes aux enfants qui meurent avant de naître. Et soudain, les enfants de cœur agitèrent des sonnettes. Ce fut comme un signal. Des femmes tombées sur les tapis se roulèrent. L'une sembla mue par un ressort, se jeta sur le ventre et rama l'air avec les pieds. Une autre, subitement atteinte d'un strabisme hideux, gloussa. Puis, devenue aphone, resta la mâchoire ouverte, la langue retroussée, la pointe dans le palais, en haut. Une autre bouffit, livide, les pupilles dilatées, se renversa la tête sur les épaules, puis la redressa d'un jet brusque et se laboura enfin là, en râlant la gorge avec ses ongles. Une autre encore, étendue sur les reins, défit ses jupes, sortit une panse nue, météorisée, énorme, puis se tordit en d'affreuses grimaces, tira, sans pouvoir la rentrer, une langue blanche, déchirée sur les bords d'une bouche en sang hercée de dents rouges. Voilà un extrait du Là-bas du Huissement, ce chapitre 19, l'extraordinaire récit de la Messe Noire. Alors là, ça nous amène à nous interroger, messieurs, sur le luciférisme de Huissement. Est-ce qu'il c'était un parvis pour entrer dans la cathédrale des élus? Est-ce que c'est un moment de suresthétisme? Qu'est-ce que c'est? Puisqu'il faut quand même signaler que Là-bas, c'est mon point de vue en tout cas, j'imagine que c'est le vôtre aussi, Sixtine, est quand même un roman ultime dans la littérature française. Je pense pas qu'aujourd'hui, la description des sévices sexuels et des meurtres des enfants dans le chapitre 11 de Là-bas serait encore publiable.
Non, en tout cas, ça ne pourrait pas être signé d'un écrivain contemporain. Non. Ça soulèverait des protestations. Mais même dans le passage de la Messe Noire, ce que Huissement s'appelle la sonomie divine, c'est-à-dire la pollution des hosties, rencontrerait quelques résistances, je pense. Oui.
Mais son luciférisme, selon vous, de quoi est-il fait? Est-ce qu'il est fait d'une sorte d'aboutissement d'un parcours esthétique? Ou est-ce que c'était un sas noir et fétide pour enfin accéder à la rédemption, à la vérité spirituelle?
En tout cas, dans le portrait de Valérie qu'on a évoqué tout à l'heure, Valérie fait de Huissement une sorte de crédule, prêt à croire ce que lui disaient des sortes de mages et d'imposteurs plus ou moins couverts de bagues. Mais cela dit, je pense que ça correspond en effet à un mouvement profond chez lui. Il ne faut pas oublier que Huissement, c'est un esprit profondément négatif, négateur. L'esprit qui toujours nie, on sait qui c'est.
Oui.
Il ne pouvait donc, je pense, aller vers le positif que dialectiquement, en passant par l'étape négative. Et encore jusqu'au bout, le positif, c'est la conversion au catholicisme, jusqu'au bout, il se dit travaillé par cet esprit de négation qui au moment même où il est dans une église, face à l'autel, c'est là, et pas avant, pas ailleurs, pas en dehors, qu'il est assailli de pensées obscènes, etc. C'était pas possible, je crois, pour lui, autrement de faire ce chemin.
André Guillaume. Oui, en tout cas, il le dit, il le déclare, il l'assume, il est persuadé qu'il fallait passer par à rebours pour accéder à Là-bas. C'est curieux qu'il ait ce déterminisme rétrospectif, il dit ça après, et puis passer par Là-bas pour aller en route, etc. Voilà, il était persuadé qu'il y avait cette logique existentielle, forte, qui avait guidé sa vie et sa production. Maintenant, on le croit ou on ne le croit pas, et il dit ça après, et c'est lui qui le dit. On n'est pas toujours le mieux placé pour se juger dans ce cas-là, mais c'est son idée. Sa thèse sur lui-même, en quelque sorte.
La thèse sur lui-même, on la retrouve bien sûr en lisant donc cette pléiade qui contient, je dirais, en 10 textes, l'essentiel du parcours de Huissement. On va terminer avant d'écouter Christophe.
Je coupe.
Pierre Jourde.
Il faut dire quand même que c'était quelqu'un, enfin, son œuvre est aussi très drôle. C'est un grand humoriste. Je pense qu'il faut insister aussi là-dessus.
Il partage avec son ami Blois, qui est véritablement des auteurs d'une drôlerie parfois insupportable, tellement la force est là.
Mais je pense qu'on peut aussi ajouter, de fait, quand il parle de satanisme dans là-bas, c'est vrai qu'il se retrouve aussi pour en discuter dans le clocher et autour d'une bonne bouffe. Donc il y a aussi un côté vachement bonne franquette de la discussion.
Ah bah ça, les confraternités intellectuelles et les réunions d'amis essentielles à cette époque. On termine en écoutant un second témoignage sur Huysmans, celui de René Duménil.
Il me semble encore revoir l'appartement où il se tenait en général à son bureau, une simple table près d'une fenêtre donnant sur la rue. Les murs étaient garnis des rayons d'une bibliothèque, les livres bien rangés, habillés presque tous d'un bradel de toile, les pièces de titres en chagrin, et dont les couleurs variaient selon le genre des ouvrages. La grande originalité de cette pièce sobre, donnant d'un côté sur la chambre de l'écrivain, de l'autre sur une pièce plus petite, qui fut celle où l'on dressa son lit de malade, le lit sur lequel il devait mourir. La grande originalité de ce bureau, c'était la corbeille à papier, faite d'un authentique tambour militaire, dégarni de sa peau d'un côté. Adossé au mur, séparant le bureau de la chambre, se trouvait un de ces canapés dont les deux extrémités relevées d'ordinaire pouvaient s'abaisser pour former un lit. Villiers de l'Isle-Adam, certains joueurs de détresse y étaient étendus, et Léon Blois aussi. Très souvent, l'un de ses bras mobiles demeurait abaissé. Et alors, le flamand, c'est le nom qu'on donne, paraît-il, à ces meubles, devenait un véritable piège pour les étourdis ou les timides qui s'asseyaient au bout. Leur poids les entraînait à terre, ils s'écroulaient, tandis que l'autre extrémité du flamand se dressait subitement vers le plafond. Je ne jurerais pas que Huysmans ait toujours prévenu certains visiteurs importuns du sort qui les attendait. Il y avait en lui une malice bon enfant, jovial même, mais peut-être se vantait-il d'une malignité certainement exagérée lorsqu'il prétendait avoir réussi à faire fondre, en le plaçant tout près de la cheminée où brûlaient de grosses bûches, son ami Félicien Rops, que l'on disait avoir fait émailler ses joues. La légende a souvent un point de départ dans la réalité. Huysmans était frileux comme un chat. Il se tenait volontiers en effet près de la cheminée dès les premiers froids venus. Assis au coin du feu, la jambe gauche drôlement repliée, comme disait Forain, enroulée autour de la droite en cèpe de vigne. Et il avait gardé du fonctionnaire une régularité d'existence scrupuleuse. Il conservait les coupures de journaux que l'Argus et le courrier de la presse lui envoyaient chaque jour. Il collait, nous conte l'abbé Bremond qui le surprit maintes fois dans cette besogne. Il collait de cet air ennuyé qui ne le quittait guère, éloge ou critique et sans prendre aucun intérêt à la prose bariolée qui défilait sous ses yeux. La caricature seule paraissait lui donner quelque plaisir. Il allait pourtant avec cette méthode menue, appliquée, patiente, bourgeoise enfin, qui avait fait jusqu'au jour de la conversion le meilleur de son art.
René Duménil, un témoignage sur Huysmans. Nous terminons cette émission bien évidemment avec un héros huysmansien, Léo Taxil, vu par Christophe Beer.
Polémiste de la fin du 19e siècle, Gabriel Jogan-Pagès est entré dans l'histoire sous le nom de Léo Taxil, inspirant Umberto Eco dans le cimetière de Prague. Provocateur virulent, manipulateur détestable ou n'agissant que pour l'appât du gain, il fait de sa propre vie un roman haletant dont les mystères et les coups de théâtre sont disséqués par Robert Rossi dans un volume imposant de Quartier Nord Éditions. Léo Taxil, du journalisme anticlérical à la mystification transcendante. Dans sa jeunesse, une fugue et un séjour dans la colonie pénitentiaire de Maitret scellent sa rupture familiale et son anticléricalisme. Il s'engage dans la presse radicale. Monté à Paris en 1879, se prétendant héritier de Voltaire et jalousé par Rochefort, le méridional ambitieux ne craint aucun débordement. Il fonde la librairie anticléricale, dont les fascicules cumulent pornographie et outrance critique. Les amours secrètes de Pie IX et les maîtresses du pape énumèrent les tortures et les abus sexuels commis par les religieux. Diffamation, injures, bonnes mœurs outragées, rien ne l'arrête, pas même les assises. Il multiplie les discours sacrilèges, séduisant les classes populaires. À défaut de cordes, nous pendrons les boyaux des prêtres pour étrangler le dernier des rois, affirme-t-il. Ses excès et son impertinence lui attirent aussi l'inimitié des libres penseurs et du Grand Orient dont il vient d'être exclu. Arrive le spectaculaire renversement de 1885. Ébloui par la figure de Jeanne d'Arc, Taxil fait pénitence, renie ses idées, liquide sa librairie et se convertit au sentiment chrétien. Au service de l'Église, sa hargne écrivassière s'acharne contre la franc-maçonnerie. Il dénonce le culte satanique du paladisme, occultisme d'arrière-loge qu'il invente avec une verve feuilletonesque qui enchante ses amis ecclésiastiques. Les mystères de la franc-maçonnerie dévoilent les premiers volumes réimprimés par les éditions de Varly, est un pavé didactique éloquent de cette période. En 1897, coup de théâtre final. Taxil, lorgnon d'or sur le nez, avoue dans une conférence, face à un parterre de prélats atterrés, les avoir trompés par esprit de fumisterie, le terme qu'il choisit. Il détaille comment il a fait d'une dactylo une sœur maçonne luciférienne convertie pour justifier d'aberrantes révélations. L'effarante supercherie provoque les hurlements du public et le suicide professionnel de Taxil, dont les derniers écrits seront des guides de cuisine. Qui donc était Léo Taxil ? Un égocentrique autodestructeur, jouissant d'être haï par ceux qui le croyaient des leurs ? Ou un apôtre absolu de la farce, sacrifiant sa propre carrière au vertige de la mystification ? Toute une vie, le temps d'une allocution, se fracassant dans un gigantesque éclat de rire.
Voilà, un gigantesque éclat de rire. Léo Taxil, d'ailleurs, dont la propagande luciférienne, catholique luciférienne, a convaincu un temps Huysmans, Pierre Jourde.
Convaincu, je ne suis pas certain. Tenté, je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'estime pour Taxil. En fait, peu de gens avaient d'estime pour Taxil ou le prenaient au sérieux.
Quelques mots, André Guyot, sur l'exposition Huysmans Critique d'Art qui ouvre le 26 novembre 2019, donc dans quelques jours, au musée d'Orsay.
Oui, oui, elle était en train de s'accrocher là au mur. J'en viens, puisque j'ai assisté aux premiers accrochages.
Là. Donc on trouvera là les œuvres que Huysmans aima à la fois et vanta,
les œuvres dont il dit beaucoup de bien, à quoi il adhère dans cette période où il est très favorable et très engagé pour l'art moderne, et celles dont il dit beaucoup de mal. C'est là qu'il est drôle d'ailleurs aussi, hein, quand il parle de Cabanel, de Bougros, de quelques autres. Voilà.
Le catalogue cite des critiques extraordinaires, de drôlerie.
Oui, Bougros a inventé le lécher-flasque.
Merci André Guyot et Pierre Jourde d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre à l'occasion de la parution de cette Pléiade qu'évidemment nous recommandons plus que chaudement à Mauvais Genre. Huysmans, romans et nouvelles chez Gallimard. Dans la Pléiade, je signale également la réédition aux éditions de la Découverte de Philémon Vieux de la Vieille, un livre de Lucien Descaves qui fut l'ami et l'exécuteur testamentaire de Huysmans. Et puis si vous êtes tenté par les fastes lucifériens et les sombres histoires judiciaires comme Huysmans aimait en voir passer sous son regard et sous son regard de fonctionnaire et d'écrivain, je recommande aux éditions Omblage, Holly Tucker, Quelque humeur empoisonnante, tout un nouvel ouvrage, une nouvelle analyse de l'affaire des poisons, Nicolas Delareynie et l'affaire des poisons, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Cédric Châtelus, Claire Prinsignon, Claire Martin-Dugard, Sixtine Audebert, Christophe Bir et François Angelier, vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve samedi prochain, je serai en compagnie d'Hubert Prolongeau et d'Élise Lépine pour évoquer Elroy Winslow et surtout nous diffuserons un grand entretien avec James Carlos Blake. Et d'ici là, bonne nuit à tous.